Ah, est-ce que Marie-Douce nous entend bien?
Oui, je vous entends.
Bon, voilà, on est bien installé.
Absolument.
Oui, on est déjà en onde.
Excellent.
Vous êtes prête? Je suis en compagnie de mon collègue Yvan Deslauriers. Et Marie-Douce est avec nous ce matin dans notre segment Au-delà des limites. Marie-Douce, c'est un beau nom, hein? C'est un beau prénom. Est-ce qu'on vous l'a
Merci.
déjà dit?
Des millions de fois.
Des millions de fois, OK, j'ai rien d'original, mais je vais juste en rajouter une petite couche ce matin, c'est vendredi après tout.
C'est la inspirée, la fille de Tex Lecor qui s'appelait Marie-Douce.
Ah
Mon
oui,
père a
c'est.
entendu ça dans l'autobus et a été inspiré.
Ben, je trouve que c'est une belle inspiration. Franchement, Tex Lecor, hein, c'est quand même. Ouais, c'est bien, c'est bien. Alors, Marie-Douce, vous êtes avocate conseil, expertise Montréal, c'est ça, hein? Vous avez un titre.
Je suis avocate à la direction des affaires juridiques de la CNSST, qui est un centre énorme de l'équité, de la
Oui.
santé et sécurité du travail. Je travaille dans l'équipe d'expertise Conseil Montréal.
C'est ça, vous êtes dans. Il y a une centaine d'avocats, hein, n'est-ce pas, qui travaillent dans cette direction.
Alors, on est beaucoup d'avocats à la CNSST, en effet. Avec les normes, on est autour de 170. Donc, on.
170. Bon,
Oui.
alors, faut rappeler que la commission, c'est un organisme patronal en
Non,
santé.
non,
Non?
non, 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 attention, attention, on
Oh
est neutre.
non!
Alors, c'est un organisme qui est paritaire. Le conseil d'administration est composé à la fois des syndicats et du côté patronal. On est dans le fond, fait de. Moi, je suis du côté SST, donc je parlais du côté santé, sécurité du travail. Là. On est vraiment, on a beaucoup de chapeaux, là, mais notamment de l'assurance publique, donc pour les travailleurs. On a aussi un chapeau de prévention, inspection. Il y a le chapeau équité salariale, il y a le chapeau de normes du travail. Donc, on est un guichet gouvernementale pour beaucoup de services en matière du droit du travail.
Bon, alors donc j'ai fait preuve de préjugés que je vais retirer devant une explication aussi claire. Bon,
Vous avez une
Marie.
avocate là avec vous,
Oui,
quand
ben c'est
même.
ça. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Alors, je ne sais plus si je vais être
Diable est
aussi
dans les détails, comme ici.
spontanée.
Oui, c'est
Oui,
ça,
le
tout à
diable
fait.
est dans les détails. Marie-Douce, vous avez une rétinite pigmentaire. C'est à la naissance ou plus tard qu'on a décelé ça chez vous?
À la
À
naissance.
la
Ben,
naissance.
en fait, quand mes parents ont réalisé qu'il y avait quelque chose qui marchait pas assez rapidement quand j'étais bébé, parce que dans des endroits sombres, je tournais pas ma tête quand ils m'appelaient. Puis c'est ça, quand j'ai commencé à marcher aussi, là, ils comprenaient qu'il y avait quelque chose là, qui était problématique. Donc le suivi médical a commencé quand même jeune, là.
Oui, mais j'ai compris, puisqu'on s'est parlé plus tôt cette semaine, que quand même, pendant un certain temps dans votre parcours scolaire, dans les premières années, vous aviez quand même un fonctionnement qui ne nécessitait pas nécessairement des ajustements si importants que ça.
Ben, ce qui arrive souvent avec les rétinites pigmentaires, hein, c'est une maladie dégénérative de la rétine. J'avais quand même assez de vision pour arriver à lire pendant jusqu'à. J'ai lu papier là quand même assez longtemps, peut-être jusqu'au cégep. Les défis étaient plus dans le cadre des déplacements parce que j'ai jamais eu de vision nocturne. J'ai toujours eu un champ visuel restreinte qui se restreignait aussi avec le temps, avec l'évolution de la maladie. Mais au niveau de la lecture, là, j'ai pu utiliser mes yeux pour lire, écrire jusqu'à peut-être 20 ans, 17, 18, 19 ans, là. Et tranquillement, pas vite, après ça, j'ai intégré des façons avec l'ordinateur, des applications qui me permettaient d'utiliser soit les synthèses vocales, un peu le braille, mais presque pas beaucoup, là, dans l'optique de maintenant, là, d'être complètement ce qu'on appelle fonctionnellement non-voyant. Donc, avec des outils vraiment qui me permettent d'utiliser l'ordinateur sans interaction avec mes yeux.
Vous m'avez parlé aussi d'une lampe intégrée, hein, qui vous a permis de...
Oui, mais au secondaire, là, je me promenais avec une espèce de bureau sur roulette. Il y avait une lampe qu'on avait clippée à ce bureau-là. Puis je me promenais de classe en classe avec ce bureau-là là, pour pouvoir avoir un éclairage assez adéquat pour lire.
Oui. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez de l'équipement qui vous accompagne, qui vous soutienne dans vos déplacements?
Ben, dans mes déplacements, c'est ça. Quand on est fonctionnellement non-voyant, c'est l'ordinateur qu'on a adapté. Hein. Donc, l'utilisation d'une revue d'écran, donc on appelle Jazz, qui est un logiciel qui permet d'interagir avec l'ordinateur sans l'intermédiaire de la souris, avec des synthèses vocales et du braille. J'utilise beaucoup aussi un OCR qui s'appelle OpenBook, qui permet là, de scanner les documents ordigraphiés, puis de les envoyer dans un langage que la synthèse vocale puisse le lire. Donc, c'est beaucoup ça, autre que les outils de déplacement là, qu'on est non-voyant. Donc, j'ai eu un chien guide jusqu'à récemment. Là, je me promène avec une canne blanche. Voilà.
Est-ce que vous avez renoncé au chien guide ou c'était un... hasard de circonstances.
Moi, j'ai un enfant à la maison de 5 ans. Alors, aller me chercher un autre chien guide, c'est quand même de l'énergie, hein, aller chercher un chien guide, le sortir. Ben, c'est plusieurs semaines si je décide d'aller chez Mira ou même dans une autre école de chien guide. C'est plusieurs semaines d'investissement où faut connecter avec le chien. Puis là, quand on le sort de l'école, il faut vraiment avoir une relation exclusive avec le chien pour que le chien s'attache beaucoup à nous. Moi, j'ai tendance à dire, plus le chien m'aime, moins j'ai le poteau d'en face. Alors, je suis pas prête maintenant à aller me rechercher un autre chien guide tout de suite. Je pense que la canne blanche est très pratique pour... la mettre dans le placard quand on revient à la maison. Je regrette pas d'être allée me chercher un chien guide au moment où je suis allée le chercher, entendez-vous, mais je ne vois pas la plus-value que j'en aurais là dans mes déplacements, surtout considérant le télétravail et tout. Là.
Oui. Avant d'arriver où vous êtes à cette commission paritaire de la santé et sécurité du travail, j'apprends vite quand même, hein?
Quand même!
Vous avez commencé par travailler à l'Assemblée nationale en votre stage en affaires juridiques, oui, et parlementaires. Oui, et ensuite, c'est ça, vous avez fait aussi la Société d'assurance automobile du Québec, je crois.
Excellent. Oui. Exactement. Mm-hmm. Bonne utilisation de mon CV. Non, sérieusement.
Est-ce que vous essayez de vous rattraper là un peu, Marie Fugère, pour qu'on se quitte en bon terme?
Je pensais que c'était vous, Francine, qui essayait de vous rattraper.
J'ai commencé en effet à Québec mon stage Barreau. J'ai été engagée comme jeune avocate naïve et fringante à l'Assemblée nationale aux affaires juridiques parlementaires. J'ai travaillé 2 ans où on faisait un peu de tout. C'était beaucoup de conseils, de la rédaction d'opinion, de la révision de contrats. On est aussi un peu de logistique où on écrivait des projets de loi pour les partis d'opposition. Donc on les accompagnait dans leur projet d'écrire, de rédiger des projets de loi. Beaucoup de droits d'auteur parce qu'il y a une bibliothèque. En tout cas, c'était très, très, très varié, de l'accès à l'information aussi. Ensuite de ça, j'ai décidé de revenir à Montréal. Je suis montréalaise, mon réseau était ici, mon conjoint de l'époque était ici. Donc je suis revenue à Montréal, tel Charlebois. J'ai été engagée à la Société de l'assurance automobile du Québec en sécurité routière. Oui, une aveugle qui s'occupe de permis de conduire, c'était très drôle. J'ai appris à plaider à ce moment-là, dans cet emploi-là, au tribunal administratif du Québec. Et quand quand malheureusement là, ils avaient plus assez de il y avait une baisse du nombre de dossiers au tribunal de contestation là, des permis de conduire. Donc c'est là où j'ai pensé à la CNSST depuis 2017.
Écoutez, vous avez un parcours très intéressant, mais je m'en voudrais beaucoup de ne pas parler de vos activités sportives, d'autant plus que mon collègue, Yvan, il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le sport. Vous êtes depuis 10 ans, hein, vous faites partie depuis 10 ans d'une équipe féminine de goalball, je crois. Hein?
Je ne fais pas partie depuis 10 ans, mais je fais depuis 10 ans du goalball.
OK.
Ça fait peut-être... quelques mois là qu'on a relancé l'équipe féminine québécoise de goalball. Donc là on a quatre compétitions qui s'en viennent. On a fait les championnats canadiens, on est arrivé quatrième au championnat canadien en mai dernier. On vise y retourner cette année à Halifax en mai prochain. Donc, première compétition de l'année pour nous, la fin de semaine, pas celle qui s'en vient, donc pas en fin de semaine, l'autre suivante, à Montréal. Donc, avis aux intéressés, ceux qui veulent venir voir pour une fois, c'est au Québec. On en a peu des compétitions de goalball au Québec, mais il y a celle-là à chaque année qui est très intéressante, là, avec un niveau de quand même intéressant.
Donc, c'est pas du petit loisir de fin de semaine, là?
Non. J'ai tendance à dire que ça fait sortir le méchant, le goalball. On lance les ballons assez fort.
Oui, on se pitche un peu partout sur le terrain.
Voilà. Je ne sais pas si tout le monde le sait à peu près c'est quoi le goalball. Mais
ben, j'allais vous demander de le définir.
C'est un sport que tout le monde joue les yeux bandés. C'est un gros ballon de basketball qui ne rebondit pas avec un grelot dedans. Ça se joue dans un gymnase. On est 3 contre 3. Il y a un but derrière nous et on lance le ballon un peu comme au bowling, par en bas, le plus fort qu'on peut, pour que le ballon puisse aller dans le but de l'autre côté. Et les 3 joueurs adverses de l'autre côté vont se laisser tomber, s'étendre par terre pour bloquer le ballon. C'est sûr qu'on a des traces tactiles par terre pour se déplacer sur le terrain. Mais voilà. Donc, les ballons peuvent aller quand même assez vite. Là, on parle entre 40 et, à mon niveau, là, on est à 40, 45, 50 km/h. Pour les filles, les gars, plus autour dans les 60-40, les gars entre 45 et 60 km/h. Au niveau paralympique, là, les ballons peuvent aller jusqu'à 70 km/h chez les hommes.
Alors, vous avez toute l'attention de mon collègue qui, je pense, a une autre question à vous poser. Ah,
j'ai une question un peu taquine, mais vous aviez dit que vous aviez une petite fille de 5 ans et demi?
Oui, 5 ans. 5 ans la semaine prochaine.
OK. Alors, est-ce que vous pouvez vous pratiquer au goalball avec elle dans le salon?
Quand elle avait 2 ans, j'ai sorti un ballon de goalball. Là. Tu sais les petits bouts de chou là, qui lancent le ballon. Puis qui est tellement... Alors, j'ai enregistré ce moment mémorable là, de ma petite fille qui lançait le ballon. Là, à 2 ans, ça allait bien. Là, à 5 ans, je pense qu'elle serait... Parce que c'est un ballon qui est très dur, hein? Fait qu'on veut pas blesser rien, on veut pas blesser le bébé. Donc, je le sens moins. J'ai plus un petit ballon, un peu comme un ballon de ballon chasseur quand on était jeune avec un grelot dedans, là, que je sens.
C'est bon,
mais
ça.
Le ballon goalball est quand même très dur, hein? On le sort dans un gymnase.
Alors déjà, l'entraînement est commencé. Écoutez, Marie Fugère, on doit se quitter. Marie-Douce Fugère, Marie-Douce, on doit se quitter à ce moment-ci. On vous remercie. On a passé un très, très beau moment avec vous dans ce segment d'Au-delà les limites. Et bonne chance, bonne continuation.
Merci beaucoup. Au revoir.